Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vous écoutez 6ème Science. Ici, on commençait cet épisode par une partie de Géopardie. Le principe est ultra simple, je vous donne la réponse, à vous de deviner la question qui va avec. Prêt ? Elon Musk. Qui est l'homme le plus riche du monde en 2022 ? Bingo, c'est lui. Qui dirige les entreprises parmi les plus innovantes du moment ? Tesla, SpaceX, The Boring Company ou Neuralink ? Toujours lui. Qui veut propulser l'homme sur Mars et en même temps lui glisser des électrodes dans le cerveau ? Quel milliardaire est sur le point de racheter Twitter ? Musk, encore Musk. Hyper présent, mégalo et aussi génial qu'imprévisible, Elon Musk défie la science dans tous les sens, pour reprendre le slogan de mon podcast préféré. Notre invité du jour a été, dans son jeune temps, champion perpignanais de Géopardie, et ce n'est pas rien, mais on va jouer à un jeu un poil plus classique avec lui aujourd'hui, puisqu'il s'agira de répondre à mes questions, et j'en ai une ribambelle. La lecture de son ouvrage paru en juin chez Alizio Science, Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, m'a captivé. Olivier Lascar, bonjour.
Bonjour Romain.
Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Déjà, tu es en pleine promo de ton livre et tu écumes les plateaux TV et radio. Mais tu es par ailleurs rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir, le partenaire de 6ème Science depuis 4 ans. On peut dire d'ailleurs que tu as un sacré sens du timing puisque ton ouvrage est paru en pleine polémique autour du rachat de Twitter par Elon Musk. Qu'est-ce qui t'a motivé à mener l'enquête sur ce personnage et à publier un livre, c'est ça, en juin 2022 ?
Alors bon, évidemment, Romain, comme tu l'imagines, le travail remonte plusieurs mois avant la publication par définition, plusieurs mois, voire quelques années. Pour moi, Elon Musk, il faisait partie du paysage. Quand on travaille à Science et Avenir et surtout le site web de Science et Avenir, qui est un site quotidien, qui traite une douzaine de papiers par jour faits par les journalistes, on voit brasser des histoires, on brasse de la science tout le temps. Et Elon Musk, il fait partie du décor. Pour nous, il a surgi. Il y a un moment clé quand même dans le surgissement médiatique d'Elon Musk, c'est l'Hyperloop. Quand en 2013, il publie le livre blanc avec les technologies qu'il propose pour concrétiser ce projet de train qui circulerait dans des tubes sous vide à la vitesse.
Sous terre, c'est ça.
Alors non, il y a une confusion entre l'Hyperloop et les projets de tunnels construits par The Boring Company. L'Hyperloop, ce serait des tuyaux sur des sortes de pipelines, c'est-à-dire ils seraient visibles dans le décor, ils sont à plusieurs mètres au-dessus du sol et à l'intérieur de ces tubes sous vide circuleraient des trains à la vitesse de l'avion. Sous terre, c'est les tunnels destiné à des voitures, à des Tesla. Et la grande différence, c'est que l'Hyperloop, Musk n'a jamais financé de société pour faire des Hyperloop, alors que The Boring Company qui creuse des tunnels, c'est bien sa société à lui. En tout cas, quand il lance le projet de l'Hyperloop en 2013, ça fait un ramdam médiatique mondial terrible. Il existe déjà, technologiquement, industriellement parlant, Elon Musk. Mais enfin, c'est un moment où moi, effectivement, je me dis, tiens, c'est un type qui sort un petit peu du lot. Mais enfin, des sujets qui sortent du lot quand on travaille à Science et Avenir sur le numérique, il y en a plein d'autres. CRISPR-Cas9, par exemple, ça n'a rien à voir. Mais c'est un sujet, voilà, l'interface entre la santé, les biotechnologies, c'est du prix Nobel, etc. Tous les 3 mois, on a un sujet important autour de CRISPR-Cas9. Mais ça n'imprime pas à l'extérieur de notre public, finalement, à l'extérieur des gens qui s'intéressent aux sujets à thématiques scientifiques. Elon Musk, à un moment donné, il se passe quelque chose. Et moi, j'ai un marqueur très simple par rapport à ça. Il y a 2 ans, il y a RTL qui m'a passé un coup de fil et qui me propose de participer à une émission pour parler d'Elon Musk. Alors, ça ne m'a pas surpris parce que ça nous arrive régulièrement à Science et Avenir d'être sollicité par des confrères pour parler de sujets à connotation scientifique ou technique. Mais j'ai pensé que c'était pour, je ne sais pas moi, le journal, les actus. Et à ce moment-là, les gars d'RTL me disent non, c'est pour une émission qui brosse bosse le destin de personnalités exceptionnelles. Et la semaine d'avant, dans cette émission hebdo, le sujet c'était Zidane, et la semaine d'après, c'était Ursula Andress, la première James Bond girl. Alors à ce moment-là, je me suis dit, si Elon Musk il est entre Zidane et Ursula Andress, c'est qu'il se passe quelque chose, il a basculé dans un autre univers. Ça veut dire que désormais, tout le monde a entendu parler d'Elon Musk, mais sans savoir franchement, clairement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce bonhomme. On fait un micro-trottoir, Elon Musk, ouais, c'est le type qui veut aller sur Mars. À part ça, c'est quoi la science d'Elon Musk? Comment il irait sur Mars? Pourquoi, à certains égards, ce qu'il a fait, ça marche et ça pourra marcher? Pourquoi, à d'autres, c'est de la communication pur jus? Il y avait cet exercice de pédagogie qui devenait nécessaire et qui pouvait intéresser le grand public. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit qu'il faut faire un truc.
Ouais, c'est vrai qu'en lisant ton livre, je me suis dit, tiens, tu nous fais une sorte de portrait en défonce du personnage, c'est-à-dire que tu vas vraiment établir les grandes règles scientifiques autour d'Elon Musk et en défonce, c'est-à-dire grâce à ses contours, on va deviner un petit peu quel est le personnage, qui est vraiment Elon Musk, sa façon d'agir et un peu son principe scientifique. Toi, tu parles de principe premier parce que finalement, Elon Musk, on a l'impression qu'il n'est régi par aucune règle, il obéit quand même à une. Est-ce que tu peux nous la donner ?
Oui, c'est très intéressant ce que tu dis là, Romain, effectivement. Alors, sur la règle qu'il donne, c'est le principe premier. Il parle du premier principe. Le premier principe de la physique. Quand il a un projet, et donc ça m'a été raconté notamment par un ingénieur qui a travaillé à Tesla, qui a été engagé par Musk, et Musk était son supérieur direct, donc c'est vraiment un témoignage de première main, hein. C'est un ingénieur qui s'appelle Philippe Chin, qui travaille dans une gigafactory actuellement, qui a lancé le projet Vercors pour établir une gigafactory en France. Et donc, il me racontait que cette histoire du premier principe, ça revient tout le temps. Musk veut faire quelque chose d'incroyable. Il dit, on va envoyer des humains sur Mars. En face, on lui dit, mais c'est pas possible. Alors Musk dit, mais pourquoi c'est pas possible? Quelle est la règle de la physique qui empêche que ce soit possible? Quel est le premier principe qui empêche que ce soit possible? Et en face, les gars disent, finalement, il n'y en a pas, parce que envoyer des robots sur Mars, on sait le faire, hein, on envoie des rovers sur Mars. Curiosity, en juillet 2022, fête ses 10 ans sur Mars. Donc on sait envoyer du matos sur Mars depuis longtemps, on sait y aller. Donc il n'y a pas de problème physique pour y aller. Alors Musk, à ce moment-là, dit, si c'est pas impossible, c'est que ça devient possible. Donc ça, effectivement, c'est ce retour constant au premier principe de la physique, et il joue ce jeu-là sur tous les domaines dans lesquels il s'investit, scientifiquement et technologiquement parlant. Après, ce que tu as dit, qui me plaît beaucoup dans la façon dont j'ai essayé de travailler, c'est qu'effectivement, moi, j'ai pas rencontré Musk. J'ai pas rencontré la sœur de Musk, le frère de Musk. Mon sujet n'est pas la biographie de Musk. Mon sujet, c'était de travailler d'un point de vue scientifique et technique ces projets. Mais effectivement, ce faisant, quand on regarde Neuralink, SpaceX, Tesla, The Boring Company, etc., d'un point de vue scientifique, il y a une sorte de portrait façon puzzle ou patchwork qui se forme in fine et qui forme le visage de Musk. Quoi. C'est-à-dire que sa personnalité, elle transparaît quand on regarde ses témoignages extérieurs. Alors moi, ça m'a fait penser, comme on est dans un podcast qui aime le fantastique, la science-fiction, etc., c'est un peu caricatural, parce que j'aime la caricature aussi, de prendre cette comparaison, mais le livre Dracula de Bram Stoker, je ne sais pas si tu l'as lu, si tu t'en souviens.
Bien sûr, oui.
C'est un livre épistolaire, c'est-à-dire c'est une succession de lettres qui sont faites par les différents personnages. Il y a Mina, il y a Jonathan Harker, il y a le chasseur de vampires. Dracula lui-même ne parle jamais, mais par les témoignages successifs de ces différents témoins, à la fin, on a un visage de Dracula. Donc Musk, c'est un peu mon Dracula à moi, quoi. Hein.
C'est vraiment intéressant comme image. J'y avais pas du tout pensé en lisant ton livre. Juste une précision, enfin c'est une question en forme de précision. Tu parlais tout à l'heure de gigafactories, c'est les usines de batteries, hein, c'est ça pour les Tesla?
Oui, alors là c'est vraiment une innovation de Musk. Il a imposé cette façon de procéder pour travailler à grande échelle sur la fabrication de batteries électriques pour les voitures, pour Tesla. Et cette façon de faire, c'est une façon de diminuer les coûts de fabrication de ces cellules et d'en fabriquer en quantité suffisante pour pouvoir fournir le marché qui est en train d'exploser, hein, le marché de la voiture électrique. Et là où je dis que c'est vraiment un apport de Musk, une invention de Musk, c'est que cette façon de faire qui a été propre à Tesla, qui a été initiée avec Tesla, maintenant elle est en train d'essaimer partout dans le monde. En Europe, on le voit avec Northvolt, c'est la première entreprise qui se développe dans ce credo-là de la Gigafactory. Maintenant, tout le monde utilise ce terme de Gigafactory. Et ensuite, il y a Vercors, l'entreprise que je citais tout à l'heure, qui est une entreprise qui va construire sa première Gigafactory à Dunkerque, dans la région de Dunkerque, hein, donc c'est des emplois en France, mais qui adopte la méthode Musk. Hein. Donc, c'est là où il a cet aspect innovation, cet aspect inventeur de Musk existe réellement et change la façon de faire.
Mais c'est vrai que tu utilises plusieurs mots pour parler d'Elon Musk tout au long de ton ouvrage. Alors, on le voit à travers le côté un peu génial de l'entrepreneur, on voit le visionnaire, tu parles aussi de prestidigitateur. On a quand même l'impression qu'à peu près tout ce qu'il entreprend, Musk le réussit. Mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui son parcours et son bagage scientifique? Parce qu'on le connaît surtout comme entrepreneur, finalement, comme chef d'entreprise. Mais est-ce qu'on sait si, au-delà de ses idées folles, mais qu'il arrive à concrétiser, est-ce qu'on sait ce qu'il sait? Quels sont ses acquis scientifiques?
Ça, c'est une question cruciale et qui est liée effectivement à la définition même du personnage. Ça permet déjà de montrer que ce n'est pas un personnage noir ou blanc, Musk. Il n'est pas binaire du tout. Et quand on a la tentation soit de l'idolâtrer, soit de le détester, je pense qu'on est dans l'erreur. Et justement, quand on essaie de le définir, il y a plein d'adjectifs qui peuvent remonter à la surface. Tu en as cité quelques-uns. Est-ce que scientifique en fait partie? On ne peut pas dire que Musk soit un scientifique dans le sens traditionnel du terme. Les scientifiques, ce sont des gens qui travaillent selon la méthode scientifique, qui font des papiers scientifiques qui sont relus par leur père, validés par leur père, avant d'être publiés dans des revues adaptées et destinées à ce public très restreint, hein, des chercheurs, des journaux comme Nature, Science, The Lancet, toute cette littérature qui nous est familière, hein, nous les journalistes, mais enfin, le grand public ne va pas mettre les mains là-dedans. On en a beaucoup entendu parler pendant la crise du Covid, avec par exemple le papier du Lancet qui parlait de l'hydroxychloroquine, etc. Donc ça, c'est la méthode de travailler des scientifiques. Musk, il n'en a rien à faire de tout ça. Il ne travaille pas du tout comme ça. Il ne fait pas de publication scientifique. Lui, quand il dévoile ses réalisations scientifiques, il le fait avec des tweets ou il le fait avec des vidéos YouTube. Et il présente ce qu'il a envie de présenter. Son génie de la communication et son aspect magicien ou prestidigitateur, hein, comme tu disais, c'est qu'il sait tourner aussi ses échecs en réussite médiatique. La façon dont il tire ses fusées et qu'il accumule les crashs pour à chaque fois les relancer avec des petites améliorations qui permettent qu'il fine le lancement réussisse, eh bien, il transforme ça en spectacle. Mmh. Ça fait des millions de vues sur YouTube et ça agrège une communauté de fans qui le voient comme un héros récurrent. Il a netflixisé la science et l'information.
Mais c'est vrai que j'ai eu cette impression-là, c'est qu'il avait apporté dans le domaine de la science et de la tech une méthode qui est celle de la start-up, c'est le côté itératif. C'est-à-dire oui. qu'on construit sur nos échecs, on teste, alors que la méthode scientifique, elle est plutôt de on fait une étude, ensuite on l'a fait relire par nos pairs. Il y a un temps, et tu parles même de temps musquien, qui n'est pas du tout le même que celui de la science. Et à cet égard, même si lui-même n'est pas scientifique, il est très impliqué par ses investissements et ses choix, parce que c'est des choix entre guillemets de visionnaire. Donc il va orienter des recherches, il va orienter des projets dans la science, mais il va le faire à sa façon. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire de façon très prudente et il ne va pas le faire en prenant les baguettes qu'auraient pris peut-être des scientifiques à sa place.
Oui, ce côté itératif, c'est exactement ça. En fait, c'est la méthode de l'informaticien. Hein. On est familiarisé avec les programmes, les versions successives des algorithmes. Hein. Un informaticien, une équipe d'informaticiens fait un programme, il fonctionne, mais ça ne les empêche pas le coup d'après de faire la version bêta pour changer quelques paramètres et voir si ça tourne un peu mieux. Et après la version bêta, il y a la version 1.0, 1.1, 2.1, etc. Bon. Et chaque couche va remplacer la précédente, ce qui fait qu'à la fin, on aura un programme qui va fonctionner vachement mieux que le tout premier. Musk, il procède de la même façon, mais avec ses objets en dur, avec des objets industriels.
Ouais, des fusées sur le pas de tir.
Avec des fusées sur le pas de tir. Il a exactement fait ça. Hein. C'est-à-dire qu'il est parti de moteurs qui avaient une certaine caractéristique de poids, de poussée. Donc les moteurs Merlin, qui sont les moteurs des Falcon, ils avaient des caractéristiques dans les premiers modèles qu'il a un petit peu... L'idée, c'est de gratter les marges. Si on regarde un moteur dans l'industrie spatiale traditionnelle et si on adopte une sorte de code couleur pour désigner les différentes parties constitutives d'un moteur, comme dans la météo, finalement, une carte météo, où on va du vert au rouge le plus foncé, quand on est dans un rouge voilà, qui devient un peu violacé, ça veut dire qu'on est dans des situations un peu tangentes. Et notre moteur, là, s'il a des certaines parties de son anatomie qui sont un peu rouges tangentes, ça veut dire, attention, si on le pousse un peu plus, c'est là que ça va casser. Dans un moteur dans l'industrie spatiale traditionnelle, on était habitué à avoir des moteurs qui soient à chaque fois dans des tonalités plutôt verdâtres. Musk, lui, il met tout en rouge, il met tout en violet, voire même en noir. Il va jusqu'au bout du bout pour tirer la substantifique moelle de ses engins. Et ça, il le fait justement par petites touches, à chaque fois en modifiant un petit peu le moteur. moteur lancement après lancement. Donc cette technique, c'est vraiment la technique de l'informaticien et ça vient des racines de Musk, hein, puisque Musk, c'est quand même quelqu'un qui vient du numérique, qui vient de la programmation, hein, qui a fait fortune avec PayPal. Sans PayPal, il n'y aurait pas toute l'aventure qui suit.
Et c'est ça, c'est ce qui lui a donné finalement les moyens derrière d'investir pour aller dans les terrains de l'électrique et de l'espace.
Oui, on peut revenir quand même 30 secondes là-dessus, puisque Musk, il est 71, hein, donc il a vu l'émergence de la micro-informatique. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est pris de passion dans sa jeunesse pour la programmation et il a commencé avec la programmation. Ses premiers succès, c'est Zip2, ce programme qui était une sorte d'ancêtre de Google Maps et de TripAdvisor, enfin en tout cas quelque chose qui permettait de dire à l'utilisateur où est la pizzeria ou le cinéma le plus proche de chez soi. Bon, c'est du programme informatique, était adossé au web. Après, il fait X.com, qui est une première expérimentation pour aller vers la banque sur Internet, hein, donc des champs qui, à la fin du millénaire précédent, n'était pas du tout exploité. Et c'est X.com qui, par un jeu de rachat, etc., devient PayPal. Et quand PayPal est racheté par eBay, eh ben, ça fait de Musk un millionnaire. Et c'est le moment où finalement il se réalise réellement, puisque devenu millionnaire, il aurait pu, je sais pas moi, faire une fondation, acheter une île.
Partir à la retraite.
Partir à la retraite à 30 ans. Voilà, bon. Ça peut arriver. Mais lui, non, il a préféré, comme au tapis vert, remiser tous ses sous sur son projet suivant. Et son projet suivant, c'était vraiment SpaceX. Parce que c'est vraiment le truc qui lui tient à cœur. SpaceX, qui fête donc en 2022, ses 20 ans.
Scientifiquement, c'est peut-être son pari le plus audacieux à date.
Je crois qu'on peut dire ça, que c'est son pari le plus audacieux et le plus personnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux sociétés emblématiques de Musk, il en a plein d'autres, mais les deux emblématiques, c'est SpaceX et Tesla. La seule qu'il ait créée, c'est SpaceX. Tesla, il ne l'a pas créée. C'est toujours difficile à se rappeler de ça parce que ça semble tellement intimement lié à lui, ne serait-ce que par le nom même de Tesla, de cette référence à l'inventeur Tesla, qui est un inventeur à la fois génial et qui est devenu une figure de la science-fiction. Ça colle tellement bien à Musk.
On en reviendra à ce côté très SF un peu plus tard.
Oui, ça lui colle tellement bien qu'on se dit, bah oui, c'est lui qui a fait... Non, c'est pas lui qui a fait Tesla. Tesla a été fondé par un binôme d'ingénieurs qui voulait renouveler la voiture électrique. Et Musk, très tôt, a été le premier à fournir les sous. Et il s'est débrouillé pour récupérer le bébé, finalement. Ce faisant, il a fonctionné comme il a beaucoup fonctionné par la suite. C'est le coucou qui fait son nid dans le nid des autres. Il se débrouille pour récupérer quelque chose qui existe déjà. L'Hyperloop dont on a parlé tout à l'heure, hein. L'Hyperloop, ça existait avant lui. Mais à partir du moment où il s'empare de l'idée et qu'il le package d'une certaine façon, il donne à la collectivité l'impression que c'en est lui l'inventeur. C'est pas le cas, hein. Il a pas inventé l'Hyperloop, il a pas inventé Tesla.
Mais c'est son génie marketing, quoi, à l'œuvre, en quelque sorte.
Oui, et là aussi, on a un paradoxe, hein. Bon, pour moi, c'est le mot paradoxe qui revient tout le temps avec Musk. C'est quand on l'écoute, Musk, hein, parce qu'il s'exprime régulièrement, hein, il fait des vidéos, il aime parler, enfin, il aime se montrer. C'est quelqu'un qui parle très mal. Il semble très renfermé, il cherche ses mots. C'est assez douloureux d'écouter Musk, hein. Et à côté de ça, il a cette science de la présentation, de la communication, du spectacle, qui semble tellement éloigné de ce qu'il est intimement que c'est assez surprenant.
Oui, et qui est même souvent à l'opposé du marché dans lequel il est. C'est-à-dire que la NASA nous a rarement habitués à des excentricités comme il va le faire, c'est-à-dire qu'avec SpaceX, il va envoyer une Tesla dans l'espace avec des clins d'œil à ses amours de science-fiction. On verrait quand même assez peu la même chose sur une fusée Ariane, par exemple.
Oui, oui, et là, c'est quand même quelque chose de très positif, il me semble, dans l'apport d'Elon Musk, c'est qu'il a réinjecté de la passion et du désir dans un secteur qui est donc celui du spatial. Il y avait un côté un peu mouroir, quoi. Hein. Je veux dire, le spatial à la papa, c'était voilà, des Ariane qui s'empilaient les unes sur les autres. On ne s'intéressait plus à ce récit-là, qui est quand même extraordinaire. Hein. Un lancement de fusée, c'est une explosion contrôlée. Donc, c'est maîtrisé et il y a de la matière grise derrière. Mais enfin, c'est une aventure considérable. Et c'est quand même lui qui a réinjecté du rêve, récit, ouais. Du rêve. Et ça, ça se voit avec les jeunes générations. Hein. Ça m'a été beaucoup dit par les gens que j'ai interrogés dans le livre, mais moi-même, je le constate parce que moi, en tant que journaliste, on a régulièrement des interactions avec les lecteurs, les lectrices, avec des étudiants, hein, avec qui on peut, je sais pas, je peux intervenir dans des cours, par exemple. Et quand on parle d'Elon Musk, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a une étincelle qui s'allume et il aspire, quoi. Il emporte. Les gens ont envie de travailler dans les domaines qu'il a investis, travailler pour ses entreprises. Et là aussi, c'est du paradoxe parce que c'est des entreprises qui, en termes de gestion des ressources humaines, ont très mauvaise réputation. Les gens, ils ne restent pas chez Tesla ou chez SpaceX parce qu'ils sont essorés au bout de 2 ans. Mais la boîte et le personnage de Musk ont un tel pouvoir d'attraction que la matière grise essorée qui s'en va, elle est remplacée quasiment tout de suite par de la fraîche.
Tu fournis de Musk un portrait, finalement, en ombre chinoise, quasiment grâce à tous les échos et aux interviews de scientifiques que tu as pu faire. Mais qu'est-ce que eux te disent? Parce que finalement, c'est un personnage extrêmement excentrique, une sorte de rockstar de la tech aujourd'hui, Elon Musk. Il voit débarquer cet ovni qui vient dynamiter la façon de faire, la façon de présenter ou de monter un projet avec énormément de science derrière, que ce soit la voiture électrique, que ce soit les modes de transport via Hyperloop ou la fusée Destination Mars. Et ils ne se disent pas, mais ce mec-là n'a finalement aucun respect pour la façon de faire et la communauté scientifique.
Ah mais oui, beaucoup se disent ça et beaucoup le considèrent encore comme un charlot. Alors, c'est une des surprises, moi, que j'ai eues en faisant ce travail, c'est que le fait qu'on prenne Musk pour un charlot, c'était la doxa il y a 20 ans quand il a créé SpaceX. Et effectivement, il disait « je vais faire la fusée réutilisable, la fusée de Tintin hein. ». Il disait pas ça comme ça, mais faut se la représenter comme ça, parce qu'on la connaît tous, la fusée de Tintin. Elle décolle à la verticale, elle réatterrit à la verticale. Et donc, les géants du secteur disaient rigoler, en disant « non, bon, c'est pas possible, machin ». Il l'a fait, quand il a dit « je vais faire des sous avec ça », les autres ont dit « bon ok, il l'a fait, techniquement c'est joli, mais enfin d'un point de vue business ça tiendra pas ». Bon, il a prouvé le contraire. S'il a pu avancer comme ça, c'est parce que justement il était méprisé et il était vu de haut, donc on l'a laissé prospérer tranquillou. Cette façon de faire il y a 20 ans, il me semble qu'elle devrait plus avoir lieu 20 ans après, puisqu'on a vu que ça avait été une erreur. Il me semble qu'elle demeure encore largement. On le voit par exemple avec le secteur des tunnels. Avec The Boring Company, dont on a cité tout à l'heure, il veut creuser des tunnels pour chinter les embouteillages qui sont en surface. Peut-être que le projet, d'un point de vue urbanistique, il est débile. Mais en tout cas, lui, il développe des tunneliers, c'est-à-dire des machines pour creuser des tunnels plus vite et à moindre coût. Et ça, il faudrait que les géants du secteur le regardent attentivement, parce que si on le laisse avancer tout seul dans son coin, il risque à un moment donné d'émerger avec une solution absolument pérenne qui va les avaler tous. Pourtant, ce mépris et cette condescendance envers lui, elle existe encore. Moi, je l'ai constaté dans ce travail-là. Il en joue énormément, hein, Musk. Hein. Il aime à montrer le pire profil de lui-même. Hein. On le voit dans son utilisation des réseaux sociaux et de Twitter, cette façon d'amonceler les conneries. Quoi.
Ouais, c'est un troll. Hein, ouais,
c'est un vrai troll, il n'y a pas d'autre mot. Et il le fait exprès, parce que justement, c'est la fable du lièvre et de la tortue. Les autres, du coup, se disent « bon, bah, je ne vais pas perdre du temps à regarder ce que fait cet individu ». Mais là, la tortue, elle va très très vite et elle va bravement son chemin.
Et... C'est vrai qu'il ne s'embarrasse pas, en fait, des manières et il ne s'embarrasse pas, finalement, des protocoles. Mais peut-être aussi qu'il ne s'embarrasse pas d'une certaine éthique.
C'est très questionnable, effectivement, l'éthique de Musk. Alors, on la voit sur différentes questions. Effectivement, sur tous les projets de Musk, à un moment donné, il y a une question d'éthique qui se pose. On peut en parler, par exemple, sur SpaceX et sur le projet de la colonisation de Mars. Mettons de côté la réalité du projet de coloniser Mars, qui fait hurler les scientifiques. Ils disent « coloniser Mars, c'est absolument impossible ». Bon, éthiquement, il y a quand même un problème. Parce que l'idée d'aller s'installer sur Mars, Musk le vend en prenant le contre-pied absolu de ce slogan qu'on a beaucoup entendu au moment de la COP de Paris, qui vise à dire « il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B ». Et donc, il faut faire en sorte de protéger la Terre. Musk dit symétriquement le contraire. Il dit « il y a une planète B, c'est Mars ». Et comme on a foutu la Terre en l'air, eh ben, c'est pas la peine finalement de recoller les pots cassés. Non, au contraire, il faut regarder vers Mars pour s'installer sur Mars. S'installer sur Mars, si on fait des villes sur Mars, il faut des réseaux électriques, avec du cuivre. Hein. L'électricité, elle passe par du cuivre. A priori, il n'y a pas assez de... On va pas miner Mars pour ramener ces fils de cuivre, en tout cas pas tout de suite. Donc, est-ce qu'on va déjà prendre tout le cuivre de la Terre pour le faire migrer sur Mars? Le cuivre sur Terre est déjà une denrée devenue rare. Donc, est-ce qu'on va accélérer le phénomène de tronionisation, si je puis dire, faire utiliser la Terre jusqu'au tronion comme une pomme pour en tirer toutes les ressources et les faire migrer sur Mars? Donc, accélérer la destruction de la Terre pour aller sur Mars, c'est ça le projet d'Elon Musk finalement. Hein. Donc éthiquement, c'est éminemment questionnable. Neuralink, les expérimentations sur les animaux, on voit que ça se passe beaucoup moins bien que ce qu'il veut montrer.
Effectivement, il y a une vraie question d'éthique et de maltraitance qui va à l'opposé total des vidéos très cool où il nous présente, c'est ça, un singe en train de jouer à Pong.
Ce singe, il a été équipé de puces, hein, c'est-à-dire qu'il a implanté dans son cerveau des puces qui enregistrent les signaux cérébraux et qui les transforment en commandes vers le jeu vidéo. Donc le singe, il a été entraîné à jouer à Pong, c'est-à-dire à manipuler la petite raquette qui fait faire rebondir la balle. Il a été entraîné précédemment à jouer avec une manette. Donc il y a un phénomène pavlovien de récompense, on lui envoie une sorte de smoothie à la banane pour le récompenser chaque fois qu'il joue bien à Pong. Donc il a d'abord appris à jouer à Pong classiquement, donc son cerveau sait comment commander le joystick. Et finalement, au bout d'un moment, il n'utilise plus de joystick, c'est directement les ondes cérébrales qui servent à commander la petite raquette. Donc effectivement, la vidéo, il faut la voir, elle est sur YouTube. C'est comme ça qu'il communique. Hein. Donc il ne fait pas un papier dans la presse scientifique pour expliquer ce qu'il a fait. Il fait une vidéo de quelques minutes dans laquelle on voit le singe qui s'appelle Pager. Évidemment, ils lui ont donné un nom. Et puis, on lui explique comment ça se passe. Et on le voit jouer dans une mise en scène très éthérée. Donc ça semble très clean. Tout le monde est content. Quelques semaines après, il y a une association de médecins aux États-Unis qui révèle, parce qu'ils ont réussi à se procurer les documents de l'université américaine avec laquelle travaille Neuralink, université qui bénéficie de l'infrastructure avec les animaux.
J'imagine que tu ne peux pas récupérer 10 singes comme ça pour mener tes expérimentations.
Non, c'est des singes qui sont élevés dans certaines conditions, qui sont monitorés d'une certaine façon. Bon. Et cette université publique, elle a des documents qu'elle doit dévoiler. Et l'association de médecins a dévoilé ces médicaments qui montrent que les singes sont, certains d'entre eux sont morts dans des conditions de souffrance considérables parce que les opérations se sont mal passées, parce qu'on a utilisé justement,
on l'a utilisé sur
le cerveau alors qu'elle n'est pas destinée au cerveau. Donc ça a créé des problèmes, ça n'a pas cicatrisé, enfin tu imagines, c'est du Frankenstein quoi. Hein. Et ça, bon, Neuralink a répondu avec une longue note de blog qui dit que c'est même pas vrai quoi, en gros. Ça va pas très loin, c'est pas terrible comme défense. Donc des questions éthiques, il y en a plein tout le temps. Sur Tesla, c'est quand même troublant cette façon dont le discours marketing appuie sur la capacité d'autonomie du véhicule, puisque le programme s'appelle l'autopilote. Et dans sa dernière version, c'est une expression qui veut vraiment dire, qui laisse à penser que la voiture est complètement autonome.
Oui, c'est sans les mains, quoi. C'est un peu ça.
Alors que c'est pas le cas du tout. La voiture, elle est autonome dans certaines phases de conduite, mais pas dans toutes. On peut pas lui laisser les clés et le volant. Alors, par ailleurs, sur le site web de Tesla, ils expliquent ça. Ils disent, attention, ce mode de conduite qui s'appelle full autonomie...
C'est ça, faut pas nous écouter, quoi. C'est en gros...
Oui, c'est ça. Non, attention, c'est une sorte de warning qui dit, attention, le terme est faux, quoi. Hein. Il faut quand même conduire soi-même. Bon, mais il y a des accidents avec les Tesla. Et il y a de nombreux accidents qui sont investigués actuellement par les autorités américaines. Il y a eu aussi des accidents en France. Il y a eu le cas de figure du taxi parisien il y a quelques mois du côté du 13e arrondissement. On a l'impression que les gens prennent trop la confiance parce qu'ils sont dans des voitures dont on leur dit qu'elles ont un niveau d'autonomie très important. Musk en rajoute quand il dit très régulièrement, à la fin de l'année, la voiture, elle sera purement autonome. Et il n'y arrive jamais. Effectivement, il y a le temps de Musk. Donc quand lui dit on va le faire à la fin de l'année, il n'y arrive pas, mais ça veut dire peut-être que dans 5 ans, il y arrivera. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a ce problème d'expression, quoi, cette façon de présenter la réalité d'une façon inadéquate et qui trompe les utilisateurs.
Ça ressort beaucoup dans les pages de ton bouquin, c'est le discours muskien, il faut vraiment le prendre avec un maximum de pincettes parce que à la fois, sa vision peut être géniale et bousculer tout le monde et amener potentiellement à des découvertes, à des nouvelles recherches, etc. Mais si jamais il ne faut vraiment pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant, que ce soit au niveau des dates ou tout simplement au niveau des présentations qui sont faites. Vaut mieux y aller avec un peu de scepticisme quand même.
Oui, oui, il faut un travail critique constamment dans ce qu'il fait, dans ce qu'il présente. Il faut voir que la communication de Musk, elle est toujours à deux temps. C'est un fusil à deux coups. Il y a ce qu'il met sur la table, par exemple pour ce qui est de SpaceX, il y a le projet de la colonisation. Et donc, il occupe l'espace médiatique avec un projet qui consiste à dire l'espèce humaine est destiné à quitter la Terre et à s'installer, notamment sur Mars. Donc ça prend du temps de bande passante. On discute de ça, les planétologues hurlent en disant que c'est impossible parce que Mars est une planète inhospitalière qui ne permet pas ça. Mais pendant ce temps, on ne parle pas de la vraie colonisation spatiale à laquelle il procède, lui.
Parfait.
Qui est celle de Starlink. Et il installe ses satellites en orbite basse de la Terre pour fournir un service de web tombé du ciel dont il est le propriétaire. Hein. C'est-à-dire, c'est un business complètement vertical. Il fait les lanceurs de SpaceX, il fait les satellites de Starlink et il fournit le service numérique du web Starlink. Pour le faire, donc, il commence à installer ses satellites en orbite basse de la Terre. À l'heure actuelle, il en a de l'ordre de 2000. Il dit qu'il en faut entre 12 000 et 42 000 pour que le système soit fonctionnel réellement sur l'entièreté du globe. 42 000, c'est un basculement total sur le nombre de satellites qui existent d'ores et déjà autour de notre planète. Et ces satellites, il a commencé à les installer, en gros, sans rien demander à personne. C'est pas tout à fait vrai, parce que pour envoyer des satellites et les faire partir depuis le sol des États-Unis, il faut demander l'accord des États-Unis, enfin des autorités nationales, etc. Bon. Mais les astrophysiciens qui sont les premiers à être gênés par cet état de fait, parce que les satellites en question dans le ciel, ils se voient, surtout avec des télescopes hyper précis dont la fonction est de scruter les cieux pour faire de la science, hein, pour savoir quelle est la mécanique céleste qu'il y a derrière tout ça. Les astrophysiciens disent, alors j'en ai rencontré plein pour le livre, qui disent, mais nous on a constaté le problème une fois qu'il a été là, parce qu'on n'a pas été prévenu, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'est ça la méthode de Musk. Il occupe le terrain avec un projet science-fictionnel qui déclenche soit l'engouement, soit le mépris. Mais ce faisant, il place ses billes sur du concret tout de suite, qui est très important dans son business model, parce que Starlink, ça devrait lui générer quelque chose de l'ordre de 25 milliards par an.
C'est vrai que finalement, il s'appuie toujours sur... T'as la jambe spatiale qui a toujours été celle que tu dis, quoi, un peu science-fiction, très médiatique. Et à côté de ça, il y avait Tesla qui était un petit peu le porte-monnaie sur lequel il pouvait s'appuyer.
Mais même avec Tesla, il fait rêver avec des connotations science-fictionnelles avec la voiture purement autonome, puisque le récit de Tesla, c'est l'avènement de la voiture complètement autonome. Mmh. Tesla n'est évidemment pas la seule compagnie qui travaille sur la question de l'autonomie des voitures. Hein. Tous les industriels parlent de 5 niveaux d'autonomie. La voiture de niveau 5, c'est la voiture purement autonome. C'est celle qui pourrait être dépourvue de volant, par exemple.
Mais la dernière Tesla, elle en est qu'au niveau 2, quoi, c'est ça.
Absolument. Ceci étant dit, des voitures qui sont absolument autonomes, ça existe d'ores et déjà, dans des typologies de fonctions très particulières, mais quand même, la Google Car, qui s'appelle plus la Google Car, c'est la société Waymo maintenant, fait des choses qui sont absolument étonnantes à cet égard. Il y a des services de taxi, de VTC qui existent en Arizona, qui est un état qui a un appareil législatif qui est adapté à ce type d'expérimentation en ville, où, alors les gars ont fait plein de vidéos qui sont disponibles sur YouTube, on voit comment ça fonctionne. Ils commandent le véhicule avec leur smartphone, la voiture arrive, il n'y a personne au volant. Hein. D'ailleurs, on a l'impression que c'est l'homme invisible qui conduit. La voiture arrive, la personne qui l'a commandée s'installe à l'intérieur, s'assoit derrière, la voiture démarre, elle s'insère dans le trafic, elle s'arrête au feu, elle freine si quelqu'un passe le passage piéton. Elle est dans un environnement urbain normal et classique et elle s'en sort très bien. Donc, c'est possible.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est possible dans certaines conditions, mais enfin, c'est toujours pareil. Ça veut dire que ça peut se développer vers une utilisation beaucoup plus répandue. Les routes américaines n'ont rien à voir avec les routes européennes, c'est sûr. Hein. Tu mets la Google Cars place de l'étoile, ça finit en boucherie. Mais alors, ça aussi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire des papiers sur ces sujets-là, il y a 20 ans, on disait la voiture autonome, c'est à horizon 2030. Là, on est plutôt dans une période de l'hiver de la voiture autonome. C'est-à-dire que les grands acteurs se rendent compte que c'est plus compliqué que ça et on repousse l'échéance, voire même certains disent il n'y aura pas de véhicule autonome sauf des navettes dans des voies dédiées où elles ne seront pas dépassées par des motos, accompagnées par des bus et des trucs comme ça. Des contre-exemples comme l'histoire de Waymo laissent plutôt à penser que non, on va peut-être y arriver, mais ça viendra sans doute pas de l'Europe. Plutôt la Chine et les États-Unis qui sont très très bien avancés là-dessus.
Je veux bien qu'on revienne sur le sujet des constellations de satellites que tu évoquais tout à l'heure, parce que ces constellations ont fait hurler tous les observateurs finalement de l'espace. J'ai cru voir que Musk, dans sa grande mansuétude, avait en quelque sorte abdiqué à certains égards, tu vas nous le dire. Mais ce que tu dis aussi, c'est que ces constellations pourraient avoir une grande utilité pour la communauté scientifique.
Voilà, là aussi on est dans un niveau de gris, c'est pas du binaire. C'est qu'avec ces satellites, qui sont des satellites périssables, hein, puisqu'on a dit que s'ils prévoyaient d'en lancer entre 10 000 et 40 000, c'est non pas parce qu'il en faut effectivement 40 000 pour que ça fonctionne, mais c'est qu'il a prévu que ces satellites, ils ont une durée de vie très limitée, et donc il faut les remplacer. Hein, il faut les remplacer au fur et à mesure pour qu'il y en ait suffisamment qui tournent dans l'espace. Donc, tu vois, c'est une approche un peu obsolescence super programmée. C'est du périssable. Et si c'est du périssable, c'est qu'on peut facilement les envoyer, finalement. Ces objets qui sont assez menus. C'est pas des satellites, c'est pas des mammouths, ces satellites. Ils sont plutôt petits. Donc, il a, avec le New Space, avec SpaceX, il révolutionne l'accès à l'espace. Et pour certains scientifiques, c'est une aubaine. Des scientifiques, par exemple, qui travaillent sur l'observation de la Terre, des rayonnements qui sont réémis par la Terre en raison de l'ensoleillement, donc des rayonnements qui sont caractéristiques de l'état de réchauffement de la planète. Il y a des scientifiques, par exemple, du LATMOS que j'ai interrogé, qui ont lancé, il y a un peu plus d'un an maintenant, un satellite dédié comme ça à l'observation du rayonnement de la Terre. Ils l'ont lancé avec SpaceX. Et ils disent, pour nous, c'est absolument extraordinaire. On peut faire des choses qu'il était inenvisageable de faire avant parce qu'on n'avait pas les budgets. Là, on peut trouver les budgets pour faire. Ça reste compliqué, hein. Il y a beaucoup de démarches à accomplir. Il faut montrer patte blanche. Il y a plein de documents. Il faut avoir des autorisations. Il ne faut pas croire qu'on balance son satellite comme ça. Hein. Mais quand même, c'est un accès à l'espace qui est absolument révolutionné. Donc ça, c'est un aspect qui est très positif et qui est dit par certains scientifiques. En revanche, de l'autre côté, il y a les astrophysiciens qui, comme tu le dis, constatent que ces points lumineux qui sont extrêmement vraiment visible au moment du lancement, mais qui reste visible encore une fois dans l'espace, eh ben ça, c'est comme des tags quoi, hein, sur un mur fraîchement peint. C'est comme des graffitis qui vont recouvrir des constellations. Avec les télescopes, c'est une gêne terrible. Donc les télescopes qui ont un temps dédié d'observation du ciel pour certaines sections, dans le cadre de certains programmes scientifiques, eh ben ils doivent travailler beaucoup plus longuement pour pouvoir avoir suffisamment d'images qui vont être nettoyées du parasitage de SpaceX. Donc d'un point de vue scientifique,
c'est une perte de temps, d'argent, j'imagine.
Du point de vue scientifique, et il y a aussi des questions à se poser d'un point de vue collectif, quoi, de l'humanité. Le droit à un ciel sombre et calme, pour reprendre la terminologie qui depuis a été discutée par l'ONU, ça fait partie des prérogatives de l'être humain depuis les australopithèques, quoi, hein, de regarder le ciel la nuit et de regarder les étoiles et de pas y voir autre chose. Est-ce qu'on est prêt à ce que ça change aujourd'hui, en début de 21e siècle, à avoir un ciel qui est tagué par la technologie humaine? C'est une question dont collectivement on pourrait discuter, hein. On peut constater d'ailleurs que c'est pas du tout un sujet politique. Les politiques, et notamment en France, s'en foutent complètement de ces questions-là. Voilà, c'est une source d'étonnement pour moi quand même.
Mais même sur cette façon d'entrevoir l'usage des satellites comme finalement des gobelets jetables, on pourra aussi parler peut-être de sa façon d'envisager le voyage dans l'espace vers Mars avec des dépenses d'énergie incroyables. Enfin, ça nous en dit aussi beaucoup sur sa façon d'envisager le présent qui finalement l'intéresse assez peu, alors qu'il y a des enjeux quand même assez considérables, hein. Ne parlons que du réchauffement climatique ou de la faim dans le monde, par exemple. Mais il a vraiment l'air uniquement préoccupé par les défis, entre guillemets, technologiques de demain. Aujourd'hui, finalement, j'ai l'impression qu'il s'en fiche un peu comme d'une guigne.
Oui, je crois que c'est un des vrais problèmes au niveau de l'éthique, hein, pour reprendre le mot que tu utilisais tout à l'heure. Ça va devenir un problème, je pense, pour lui du point de vue de son business aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il peut se faire beaucoup d'ennemis dans la sphère industrielle et politique, etc. Comme il est porté par cet engouement public, ça le protège d'une certaine façon. Mais si il accroît la différence entre son discours et le diagnostic qu'on fait collectivement de l'état, de la nature, de l'environnement, il va de plus en plus s'installer comme un méchant de James Bond, quoi. Mmh. Et ça va être un problème, parce qu'il va avoir de moins en moins de personnes pour le suivre. Effectivement, l'état de la planète, des considérations d'ordre écolo, environnemental, on a vraiment l'impression que c'est pas son truc. Tesla et la voiture électrique. La voiture électrique est une partie de la réponse au changement climatique, puisque c'est une façon de remplacer les énergies fossiles.
On a un épisode avec Loïc sur le sujet qui sera paru au moment où ton épisode paraîtra aussi, donc pas d'inquiétude.
Voilà, Loïc explique ça effectivement très bien, Loïc Chauveau. L'électricité comme réponse aux problèmes environnementaux, c'est pas ça qui le porte, Musk, hein. Lui, c'est plutôt le diagnostic que les énergies fossiles sont finies. À relativement brève échéance, il n'y en aura plus. Donc, il faut trouver une autre alternative pour avoir des grosses voitures. C'est pour ça que lui se positionne sur l'électrique. C'est pas tellement pour des questions environnementales. Quand il y a eu l'annonce du rachat de Twitter, 44 milliards de dollars. C'est une somme considérable. L'annonce a été faite la même semaine où l'Afrique du Sud, le pays natal de Musk, a été ravagée par une catastrophe naturelle, des inondations, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des décennies. Il aurait pu avoir, j'allais dire, un geste.
Un mot déjà.
Un geste sur le carnet de chèques. Enfin, ouais. Je ne sais pas moi, faire un financement pour aider à la reconstruction, etc. Il n'en a pas parlé. On a l'impression qu'il s'en fout complètement, ouais.
Et moi, je me demande dans quelle mesure cette projection, finalement, on se dit, tu parlais de temps musquin, mais moi, j'ai même l'impression que finalement, on vit pas du tout dans la même chronologie ou qu'on vit peut-être déjà plus sur la même planète qu'Elon Musk, hein, finalement, qui considère peut-être ce plan A dans lequel le reste de l'humanité vit son quotidien comme déjà périmé. Est-ce que son amour pour la SF ne dicte pas un petit peu sa philosophie ?
Alors, je le crois, et je crois que cet amour pour la SF, il n'est pas simulé. De toute façon, on le voit, Musk, dans ses lacunes et dans ses réussites, c'est quelqu'un qui simule pas. Tu vois, il fait pas semblant de s'intéresser à l'état de la planète, et il fait pas semblant non plus quand il s'intéresse à la science-fiction. Le plan A dont il se désintéresse, qui consiste à faire en sorte que notre planète, la Terre, doit être conservée, on a l'impression effectivement qu'il est dans une communication où il essaie de convaincre justement que le plan A, il est de toute façon dépassé. Mais c'est pas audible, parce que le projet de colonisation martien, comme me le dit un interlocuteur, Michel Vizeau, dit c'est un fantasme d'hommes blancs et riches. Effectivement, même si Musk explique très régulièrement que le billet vers Mars, ça coûtera pas plus qu'une maison quand tu es américain et que tu veux t'acheter un pavillon, c'est pas plausible, hein, parce qu'il s'agit pas simplement de se prendre le billet. Ce projet-là, il est alimenté par ses lectures et ses visionnages de films de science-fiction qui sont vraiment constitutifs du personnage. Hein. C'est un vrai amateur de tout ça. Alors, ça se voit dans son jeu de référence. Et notamment, il y a quelque chose que je mets en avant dans le livre, c'est cette référence à cet auteur de SF, Ian M. Banks, qui est un auteur extrêmement célèbre, extrêmement apprécié, qui est considéré vraiment comme un des orfèvres de la science-fiction contemporaine. Alors, il est mort, donc il produira plus, mais enfin, il a construit ce qu'on appelle le cycle de la culture avec différents ouvrages. Donc, on a parlé de ces fusées qui réatterrissent verticalement au sol. Et aujourd'hui, ces fusées, elles réatterrissent sur des barges qui sont en mer, au large de Cap Canaveral. Et ces barges, elles ont le nom des vaisseaux, en tout cas de deux vaisseaux, des livres de Banks. Il y a « Of course, I still love you » et « Just read the instructions ». Donc, bien sûr, je t'aime encore et lisez la notice. Cette référence-là, c'est pas une référence lambda.
Oui, c'est pointu.
C'est pointu, parce que même si Banks est extrêmement apprécié, si c'est considéré comme un des papes de la SF, c'est pour les gens qui lisent de la SF, ce qui est quand même un secteur déjà beaucoup plus restreint. On n'est pas dans la référence à Star Wars. Il fait aussi des références à Star Wars. Mm. Si la Falcon s'appelle la Falcon, c'est à cause du Millennium Falcon. Donc, il a cette large gamme. Mais dans ce jeu de référence, comme ça m'est dit par Irène Langlais, qui est une spécialiste de la littérature de science-fiction et qui est interrogée dans le livre, dans toutes les cultures, il y a différentes strates de culture et il y a des références qu'on sort un petit peu pour montrer son niveau de compétence, quoi, hein, pour montrer qu'on n'est pas du lambda, qu'on n'est pas l'amateur de SF de base. Ouais. Et Banks, c'est exactement là-dedans. C'est assez troublant de voir que la première fois qu'il parle de ce qui va devenir Neuralink, c'est pas encore Neuralink, il explique que par un cheminement qui est très tortueux, au début il dit que l'IA est une menace existentielle.
On va y venir, c'est la dernière question.
Et donc quand il parle de Neuralink la première fois, sur scène, pendant une conférence, il dit qu'il faudrait une dentelle neuronale pour relier le cerveau à la machine. L'expression même de dentelle neuronale qui provoque des points d'interrogation dans les yeux de ses interlocuteurs sur la scène de cette conférence, et les gens lui demandent est-ce que vous pouvez définir, préciser un petit peu. Il peut pas parce qu'on a l'impression qu'il le sait pas au moment où il en parle, mais c'est une expression qui vient de Banks aussi, quoi, la dentelle neuronale. Donc ce jeu de référence, il revient assez régulièrement. Et puis il y a évidemment les références à Douglas Adams qui sont un
peu
plus...
Le guide du voyageur galactique.
Ça, c'est un peu plus connu, notamment parce qu'il y a eu les adaptations au cinéma. Hein. C'est toujours un accélérateur, l'adaptation au cinéma.
Le fameux Keep Calm, c'est ça, sur la Tesla qu'il a envoyée dans l'espace.
C'est Don't Panic.
Don't Panic,
Don't
pardon.
Panic, voilà. Et sur le tableau de bord, sur la tablette de la Tesla, il y a écrit en gros Don't Panic. Et ça, c'est une référence au guide du voyageur galactique.
C'est vrai qu'on voit plutôt dans Musk un enthousiaste pour les sciences et la tech en général, sauf peut-être pour un sujet, et tu l'as effleuré tout à l'heure, c'est celui de l'IA, où en gros il fait plutôt partie de ceux qui ont des craintes vis-à-vis de l'IA forte, c'est-à-dire de l'IA autonome, hein, celle qui pourrait entre guillemets se dire un jour que l'humanité est plutôt nocive pour elle-même et avoir l'envie de s'en débarrasser. Il a quand même, c'est vrai, une philosophie qui est assez spécifique vis-à-vis de l'IA. Est-ce qu'il en a peur ?
Alors, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Hein. Il y a eu une autre prise de parole qui est célèbre et qu'on retrouve très facilement sur YouTube, où pendant une conférence, il répond aux questions de la salle à la fin de sa présentation, de son échange avec le présentateur de cette conférence. Et il y a quelqu'un qui lui dit, il s'appelle Bob, j'ai dit, est-ce que, bon, vous avez financé, vous avez investi plein de champs de la science, est-ce que vous allez aller sur l'IA ? Et là, Musk se crispe un peu et dit, l'IA, pour moi, c'est une menace existentielle. Ça risque de, je sais plus quels sont les termes exactement, de précipiter la fin de l'humanité. Alors Bob en face lui dit, bah alors j'imagine, il dit ça en rigolant, j'imagine qu'il n'y aura pas de HAL 9000 dans le vaisseau qui ira sur Mars. Donc une référence à ce super ordinateur du film de Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, qui devient fou. Et là Musk lui répond, moi je pense que face aux possibilités de l'intelligence artificielle réelle, HAL n'est qu'un toutou. Et à partir de là, effectivement, il a fait plusieurs déclarations pour s'inquiéter de l'intelligence artificielle et des effets que pourrait avoir l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, donc on attend de voir qu'est-ce qu'il va faire sur ce sujet-là, comment il va réagir. Et sa réponse, c'est finalement, pour que l'intelligence artificielle ne supplante pas l'humain, il faut intégrer l'intelligence artificielle à l'humain.
Il faut mettre l'humain au niveau, finalement. Il faut l'améliorer.
Il faut l'uploader, ouais. C'est ça, exactement. Et cette réponse vient avec Neuralink, avec cette société qu'il crée pour fabriquer des capteurs à implanter dans le cerveau pour y capter les ondes cérébrales, les signaux électriques sans lesquels on peut pas, nos sens n'existent pas, nos fonctions motrices n'existent pas. Enfin, tout part de signaux électriques organiques et ces signaux électriques captés par la puce qui est vraiment à l'intérieur du cerveau. Cette puce électronique, elle va les transformer pour envoyer des commandes vers des machines, des ordinateurs, le smartphone. Hein, on va déverrouiller son smartphone par la pensée. Ça peut avoir des vertus extraordinaires pour des gens qui sont en fauteuil roulant, pour manipuler des exosquelettes, etc. Mais donc voilà, c'est ça sa réponse. Il veut intégrer la technologie à l'humain pour que l'humain ne soit pas dépassé par la technologie toute seule. C'est aussi un paradoxe.
Et toi, maintenant que tu as donc terminé ton ouvrage, tu fais désormais le tour des plateaux pour le présenter. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans 6ème Science. comment tu vas suivre, et peut-être que ton regard aussi sur le personnage a un peu changé par rapport à celui que tu avais il y a quelques années, de quelle façon tu vas le suivre ?
Alors, effectivement, c'est pas quelqu'un pour qui j'avais une idolâtrie, ni même une détestation. Hein. Moi, je suis pas allé du tout sur ce sujet parce que je suis fan de Musk. Hein. J'y suis allé pour les raisons qu'on a dites au début de l'émission. Là, mis à part, évidemment, il va continuer à procéder de la façon dont il procède de le début, c'est-à-dire...
Bulldozer,
et puis accumuler les péripéties et les épisodes. En tant que journaliste à Science et Avenir, et rédacteur-chef du numérique et donc de notre site web qui publie tous les jours, là, il y a un problème. Il va falloir séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que comme justement Musk fait des annonces tout le temps, il y en a certaines qui sont vraiment de la com et dont on n'a pas besoin de parler. C'est de la mousse, c'est de l'écume. Et puis de temps en temps, il y a la vraie pépite, enfin la vraie réalisation. Là, il va y avoir le lancement de Starship. À une altitude orbitale jusqu'à présent, Starship.
C'est la fusée Tintin, quoi. Hein,
c'est la fusée Tintin, c'est celle qui est destinée à devenir aussi l'alunisseur, c'est-à-dire qui va permettre aux astronautes de revenir sur le sol de la Lune dans le cadre du programme Artemis, hein, qui doit arriver à brève échéance maintenant. Donc le premier lancement de la Starship, ça, c'est un point d'intérêt. De façon plus globale, et pour reprendre une autre comparaison avec la SF, puisqu'on aime la SF, Romain, toi et moi,
je confirme.
C'est que je crois que SpaceX, Musk est maintenant dans la NASA dans un moment que je qualifierais de l'instant Frankenstein. Pour prendre cette comparaison avec, tu sais, le docteur Frankenstein qui crée une créature et puis à un moment, la créature se libère de la maîtrise de son créateur et va semer le chaos. SpaceX s'est développé grâce à la NASA, grâce au partenariat de la NASA, grâce au contrat de la NASA. Et maintenant, on est arrivé à un moment où SpaceX est devenu tellement puissant qu'elle peut s'affranchir de la collaboration avec la NASA. Ça va être intéressant de voir, je pense, dans les mois et dans les années qui viennent, comment la NASA va faire en sorte de recontrôler SpaceX. Et par exemple, sur la question de la pollution lumineuse, la pollution concrète aussi, de l'embouteillage qui se passe en orbite basse de la Terre à cause de SpaceX et de Starlink, pour la première fois, la NASA a fait un communiqué de presse, il y a quelques mois, en disant on est très soucieux de cette situation et, alors je ne peux pas restituer comme ça les termes du communiqué de presse, mais c'est une façon quand même de dire à SpaceX, attention, il ne faut pas aller trop loin. Quoi.
Voilà. On lui tape un peu sur les doigts, quoi.
C'est ça. Donc cette façon dont la NASA va essayer de reprendre le contrôle de SpaceX, c'est quelque chose qui va être intéressant à observer dans les temps qui viennent.
Donc Elon Musk, l'homme qui défie la science, mais qui défie aussi ses clients, la NASA en l'occurrence. Donc je rappelle, hein, le titre de ton ouvrage, c'est « Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science », sorti aux éditions Alizio Science. Encore merci Olivier.
Merci Romain, merci beaucoup.
Alors pour tout vous dire sur les coulisses, je garde Olivier avec moi, je le capture hein, dans le studio 20 minutes, puisqu'on va parler d'une autre grande figure, non pas de la science, bien qu'un peu, mais plutôt de la science-fiction, Philippe K. Dick. Donc bah, à tout de suite Olivier, et moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.